This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
J'avais acheté des petits débardeurs genre pour l'été et en braderie, donc je les avais essayés en rentrant et ils m'allaient pas. Donc j'étais là, bah, je les garde pour quand j'aurai plus de ça. Et là, je les ai essayés, ça m'allait. Ça m'a automatiquement fait pleurer. Après, j'ai essayé un autre t-shirt que j'avais déjà depuis un bon moment, que je mettais beaucoup avant, mais qui avant était très court et qui était très voyant, enfin, on voyait beaucoup mes seins. Et là, c'était beaucoup plus beau. Pour moi, enfin, moi je trouvais ça beaucoup plus beau et beaucoup plus esthétique avec ma plus petite poitrine et ça m'a fait fondre en larmes.
Exécuté par qui ?
Fabrice Florent. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron, le podcast où chaque lundi à partir de 6h du matin, je donne la parole à un père pour le faire causer de son expérience de la paternité. Alors je suis Fabrice Florent et mon métier c'est de faire parler les gens. Je fais parler de mes invités, de leur intime, parce que je suis convaincu que l'intime est bien plus universel qu'on ne le pense. Vous verrez, vous vous reconnaîtrez peut-être dans les histoires des gens qui parlent dans mon micro alors qu'ils racontent leur histoire. Je fais donc parler des gens, plutôt dans des podcasts de conversation, sur divers sujets. Des pères de paternité, des mères de maternité, des célébrités de leur parcours vers le succès, des hommes de masculinité et aussi, bien sûr, des gens de leur rapport à l'argent. Je fais aussi un talk show avec ma partenaire Mimi Hegel qui s'appelle le Fab et Mimi Show. Bref, vous retrouverez tous les liens dans les notes de cet épisode si vous voulez découvrir ces autres podcasts. Et d'ailleurs, si vous découvrez mes podcasts, je fais pas mal d'autres choses. Allez donc voir ça sur mon site internet fabflorent.com, fabflorent.com. Si mes podcasts et mon travail vous aident d'une manière ou d'une autre, alors vous pouvez m'aider en retour en m'envoyant un don en argent sonnant et trébuchant avec votre carte bleue ou alors en vous abonnant à mon Patreon à partir de 5€ par mois. Vous trouverez les liens dans les notes de cet épisode. Merci d'avance, c'est très cool. Enfin, si vous aimez le podcast, vous pouvez vous y abonner, mettre un chouette commentaire et 5 étoiles au podcast sur votre appli de podcast préféré, en particulier si vous écoutez sur Apple Podcasts ou Spotify. Et surtout, partagez cet épisode et ce podcast autour de vous s'il vous a plu. Je suis sûr que vous connaissez des gens que mon travail pourrait intéresser. Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Je vous invite à aller découvrir Discord, c'est un petit logiciel génial qu'il faut installer sur son téléphone ou sur votre ordinateur. En fait, vous pouvez me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux et trouver toutes les infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Merci d'avance.
Salut, ici le Fab du montage. Alors vous allez entendre dans cet épisode, il y a Lina qui parle surtout. Mais si ça vous intéresse de m'entendre parler plus longuement de la façon dont j'ai vécu moi émotionnellement cette opération, je vous invite à aller écouter le Fab et Mimi Show. Je vous mettrai directement le lien et je vous donnerai le chapitre exact où il faut aller voir. Donc c'est le Fab et Mimi Show, c'est le talk show qu'on fait avec Mimi dont on parle au tout début de la discussion avec Lina. Merci beaucoup et bonne écoute.
On est de retour.
Et oui, votre duo préféré après le Fab et Mimi Show.
T'as jamais écouté, tu sais pas ?
Non, j'ai jamais écouté, mais je sais que c'est très drôle. Enfin, de ce que les gens en disent, ça a l'air d'être très drôle.
Mais comment tu sais ?
Bah, parce que je vous connais individuellement et je connais votre duo hors écran, donc je sais.
Hors écran ?
Hors internet. IRL.
Bon, en tout cas, si vous l'avez pas, effectivement, on fait un show avec Mimi, un talk show, toutes les semaines, le lundi.
Voilà.
Où on parle de plein de sujets très différents. Et avec Mimi et Gaël, donc, qui est déjà, je crois, passé dans l'histoire de Daron. Je sais plus. On a parlé de Child Free. Il y a fort longtemps. Et on a 15 ans d'écart et on parle de plein de sujets de société. Merci pour ce petit shout-out.
Avec plaisir. Mais c'est vrai qu'on est votre deuxième duo préféré.
Ça va, Lina ?
Oui, ça va et toi ?
Ouais, très bien. Tu avais envie de parler de ce sujet dans le micro ?
Ouais, grave.
Pourquoi ?
Parce que j'ai envie que les gens qui se posent les questions que je me suis posées il y a un an, ils puissent avoir les réponses que moi j'ai eu du mal à trouver. Et je trouve ça intéressant d'avoir plein de témoignages.
Ok. De quoi on va parler ?
On va parler de la réduction mammaire.
Qu'est-ce que c'est la réduction mammaire ?
C'est quand on te charcute les seins pour qu'ils deviennent plus petits.
C'est la réduction de ta mère.
C'est très gênant.
Oui, je sais.
Ça m'a cringe instantanément.
C'était fait pour.
C'est quand on te charcute les seins pour qu'ils deviennent plus petits. Parce que t'as une hypertrophie mammaire en général.
On te charcute les seins.
bah, on découpe, quoi. Et moi, j'ai fait ça il y a 3 semaines. C'est top. Ça me rend trop heureuse. Voilà.
On peut raconter un petit peu
mon parcours de vie sur mes seins. J'adore parler de mes seins, alors avec plaisir.
On a déjà fait un épisode sur ton rapport à ton corps il y a quelques temps, tu te souviens ou pas?
Ouais, mais j'avais pas encore unlock tout ce que j'ai unlock aujourd'hui. Parce que vraiment, cette opération unlock. M'a fait... Bah, j'ai débloqué des... Enfin, cette opération m'a fait me rendre compte d'à quel point ma relation avec mes seins était conflictuelle, mais que j'en avais même pas conscience, quoi.
Ah ouais?
Ah bah, vraiment. J'aurais jamais cru que ça m'apporterait autant de joie que la joie qui me remplit aujourd'hui chaque jour.
On va expliquer, t'es passé d'un bonnet...
EF à un bonnet C. Parce que j'ai arrêté de compter, au moment ça m'énervait trop, donc j'ai juste dit, c'est bon là, mettez-moi votre plus grande taille. Et j'étais aux portes de ne plus rentrer dans les soutifs qui se font dans les magasins standards.
Et tu...
Et j'ai un très petit tour de taille.
Donc, t'as un tout petit dos et...
Voilà, je suis très fine. Le chirurgien avait dit, petit thorax, bonnet profond. Donc, voilà.
Ils t'ont enlevé combien de...
Ils m'ont enlevé 1,3 kg. C'est énorme. C'est une grosse bouteille d'eau. Voilà.
C'est une petite bouteille d'eau. C'est une bouteille d'eau d'un litre 5, quoi.
Ouais. Bah, c'est beaucoup.
Oui. Non, c'est énorme.
C'est énorme.
Non,
Et encore, il m'en reste encore beaucoup.
Oui.
Enfin, beaucoup, non, comparé à ce que j'avais avant. Mais objectivement... je regarde les gens autour de moi qui n'ont pas de seins. J'ai beaucoup plus de seins qu'encore aujourd'hui.
Oui.
Voilà. Il doit facile me rester 1 kg sans problème. Je pense. Ce qui est absolument choquant, je trouve. En termes de poids, c'est très conséquent. Voilà.
Tu te sens plus légère ?
Ah bah, je me sens pas que plus légère. Je me sens plus heureuse, je me sens plus légère, je me sens plus droite, je me sens plus fière, je me sens moins... complexée, moins dérangée. Je suis encore vachement limitée dans mes mouvements parce que je me suis fait opérer il n'y a pas si longtemps que ça. Donc je ne peux pas encore faire de sport, de vélo, etc. Mais je sens déjà la différence rien que là, ces 3 dernières semaines.
Avant d'aller plus loin, je suis trop heureux qu'on fasse cet épisode ensemble parce que j'ai vécu l'opération avec toi. On va en parler un peu plus tard. Et je suis très heureux qu'on fasse ça parce que généralement, je crois que la relation entre les seins des filles et leur père, c'est une sorte de no-go pour plein de bonnes raisons que je peux comprendre, tu vois, de « ok, c'est ton corps et tout », tu vois. Mais je sais aussi qu'il y a plein de gens qui m'ont dit « c'est trop chouette que tu sois allé avec elle, que t'aies assisté, enfin que t'aies assisté, pas, j'étais pas avec toi au bloc, quoi, tu vois, mais qu'en tout cas, t'aies pu être à ses côtés. » Parce que... les seins, normalement, c'est censé être un truc, une sorte de charge gardée entre femmes, quoi, tu vois. Et moi, ça m'a vachement touché de vivre ce moment-là avec toi. Je suis très heureux qu'on en parle parce que, mais on va en parler. Mais c'est vrai que je crois que c'est complexe pour les pères de savoir comment faire pour réagir par rapport au corps de leur fille, quoi. Voilà.
Bah, c'est un peu comme un truc de temple. Genre entre femmes, tu sais. Et on est là, il n'y a que les femmes qui ont droit. Parce qu'il n'y a que elles qui subissent ça. Ou qui ont cet avantage, je ne sais pas trop. Mais il n'y a que elles qui savent. Et c'est un peu logique en vrai. Tu vois, moi, je ne me permettrai jamais de savoir ce que c'est d'avoir une bite. Enfin, je ne pourrais jamais le savoir humainement.
Ah oui.
Bah voilà. Mais je sais que d'avoir eu des seins, c'était pas très rigolo, surtout des gros seins avec
d'avoir
un tout petit corps.
D'avoir eu des seins comme si t'en avais plus.
Bah, mais je te jure, moi, j'ai eu l'impression de ne plus avoir de seins. C'est trop bien. Je ne suis plus obligée. Bon, là, objectivement, vu que je sors d'opération, si, mais incessamment sous peu, je ne serai plus obligée de mettre des soutifs. J'aurai le choix.
On va en parler.
C'est un truc de dingue.
Donc. Tu veux raconter un petit peu?
On fait la track, la timeline. Tout a commencé quand j'ai eu ma puberté. Enfin, même, ça a commencé avant parce que ma mère est ta sœur à toi. Donc, des deux côtés des gènes, il y a des gens qui ont des gros seins. Enfin, des seins conséquents et volumineux. Et donc, j'ai hérité de ces magnifiques gènes que j'emmerde un peu quand même. Mais voilà. Et donc... à partir de ma 3e, 4e, J'ai commencé à avoir une poitrine extrêmement conséquente. Je faisais genre du D, mais j'étais encore toute petite, toute fine. Et encore plus à cette époque-là, parce que j'étais vraiment... c'est la période où j'allais pas très bien, donc j'étais vraiment extrêmement fine. Et je faisais pas de sport et tout, donc vraiment, j'avais pas de hanches. J'avais juste des seins, en fait, vraiment...
Mais t'avais 13-14 ans.
Oui, c'est ça.
Donc c'est normal.
Oui, c'est totalement normal, oui. Mais...
T'étais une tige avec de gros
des seins. Okay. Voilà, j'étais une tige avec des melons. Ou des cerises, comme vous préférez. Mais, enfin, les cerises, c'est plus petit, donc ça marche pas. Oui. Mais souvent, c'est l'emoji qu'on prend pour représenter les seins. Et pendant très longtemps, dans mon collège, j'ai été la blonde au gros sein. Ça a été un truc, tu vois. C'était genre... Voilà. Et en plus, souvent, j'étais plus blonde parce que je faisais des colos. Donc, j'étais la fille rouge au gros sein ou des trucs comme ça. Enfin, c'est la fille aux cheveux rouges.
C'est pour ça que tu faisais des colos ?
Non, pas du tout. Je faisais des colos parce que ça me faisait kiffer. De changer de tête, c'était cool.
Ok.
Et c'était cool de défier les règles aussi. D'être rebelle à ma façon. Et on me reprenait énormément sur la manière dont je m'habillais. Parce que l'été, je mettais énormément de t-shirts courts parce qu'en fait, il fait chaud. C'est la canicule, bonjour. Et tous les jours, j'avais des remarques de baisse un peu ton t-shirt, mets un pull, fais un truc. J'étais genre, mais une fille sans sein aurait le même t-shirt que moi, ça ne poserait pas de problème. C'est juste parce que j'ai des seins, moi, que c'est dérangeant.
Tu étais dans un collège privé.
Ouais.
Et moi, je me souviens d'une anecdote, tu t'en souviens ou pas? C'est où tu étais avec genre 3 copines, peut-être?
Ouais, si, je me rappelle. Ça,
tu
m'a, ça m'a halluciné.
Tu veux raconter?
J'étais avec 3 copines et on avait toutes les 3 le même type de t-shirt. Et il n'y a que moi qui me suis pris une remarque.
Une sorte de débardeur, quoi.
Ouais, c'est ça. Il n'y a que moi, on m'a dit, bah, couvre-toi, genre. Et j'étais, bah, regardez autour de vous, on est genre vraiment. On n'était pas 3, on était genre 5, tu vois. Et le pion, le surveillant, était là, genre, habillez-vous, habille-toi, plutôt. Et moi, j'étais là, bah, c'est pas très logique, ça. Et ça m'énervait, cette injustice m'énervait énormément. Parce que l'injustice... La gorge, compliquée. Et donc, pendant très longtemps, je m'habillais court, mais je pense surtout que c'était pour me sexualiser énormément.
Ah ouais ?
Bah oui, parce que j'avais l'impression que j'avais que ça comme atout, parce que j'avais très peu de confiance en moi. Donc, je crois que ça m'a aussi menée vers une sursexualisation de moi-même... À cette période-là.
À quel âge ?
Bah, mon collège, la fin de mon collège. Bah, parce que vraiment, j'étais définie comme la meuf avec des seins et très peu de gens me regardaient dans les yeux en parlant.
Pourquoi on n'avait jamais parlé, ça ?
Parce que j'en avais pas du tout conscience.
Ok.
Et j'avais pas du tout conscience de... Oh, on entend la pluie. J'avais pas du tout conscience de la quantité et l'impact que ça avait sur moi, la quantité de choses qui changeaient dans ma vie par rapport à mes seins. Et à quel point c'était ce pourquoi on se rappelle de moi, en général.
Ok.
Et j'avais pas du tout pris conscience d'à quel point je me sexualisais non plus. Enfin, je le savais un peu, genre au fond. Mais pour moi, c'était pas grave, c'était pas important. Et c'était comme ça. Et c'est ce qu'on attendait de moi aussi. Donc, voilà, il y a une période où je mettais pas de soutif. Avant que mes seins deviennent trop volumineux, genre en 5e, je mettais pas de soutif. Pendant une bonne année, je crois. Mais j'étais toujours recroquevillée. Enfin, j'étais pas à l'aise, mais j'étais en mode fuck la société, je mets pas de soutif, mais j'étais pas à l'aise vraiment de pas en mettre. Donc c'était un peu bizarre. Et à ce moment-là, je mettais pas de t-shirt serré, j'avais que des t-shirts.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
C'est un peu large. Et quand j'ai commencé à mettre des débardeurs et tout, là, j'ai mis des soutifs. Donc voilà, ça a toujours été une galère pour trouver des maillots, des soutifs. Ça coûtait toujours un rein. C'est toujours été chiant, quoi. J'ai jamais pu m'habiller comme je voulais. Fallait toujours que je fasse attention à ce que ça soit pas trop vulgaire et en même temps, voilà, surtout au collège. Après, je suis partie dans un lycée public, donc c'était beaucoup plus simple. J'ai eu des potes mecs.
Pourquoi c'était plus simple ?
Parce qu'ils s'en battent les couilles. Voilà, il y a des gens qui viennent en brassière de sport, c'est leur t-shirt. Moi, aujourd'hui, je peux mettre un soutif, un truc totalement transparent dessus, personne ne me dira rien, personne ne me regardera mal, c'est normal, c'est pas grave.
Personne, tu veux dire les surveillants ?
Même les élèves, okay. En général. Parce qu'on est plus habitués, tu vois. Il y a moins ce truc de tu ressors du lot. Quand même un peu, mais beaucoup moins que quand j'étais au collège.
T'allais parler de tes potes ?
Ouais, en seconde, j'ai eu mes premiers potes mecs, vrais potes hyper proches. Et bah, ils s'en battaient les couilles que j'avais des seins ou pas. Donc c'était très rassurant pour moi. Et puis c'était un environnement beaucoup plus sain. Ils étaient aussi beaucoup plus cool, globalement, avec moi. Et le fait que j'avais des seins ne comptait pas pour eux. Genre, ça n'a jamais été un sujet. Et ils m'ont jamais fait remarquer. Enfin, ils m'ont jamais regardé dans les seins. Ils ont toujours été hyper respectueux de ça.
Quand tu dis qu'on te regardait dans les seins, c'est, je crois que c'est un vrai truc dont les mecs qui nous écoutent là peut-être n'ont pas conscience. C'est que moi j'ai découvert ce que ça faisait quand les mecs qui ont peur de la calvitie me regardent le front.
Ouais.
Tu sais. Mmh. Et en fait je me suis rendu compte qu'ils me regardaient pas dans les yeux. Et eux ils avaient pas l'impression de pas me regarder. Mmh. Et je me suis dit ah putain à tous les coups c'est ça que vivent les meufs quoi. C'est-à-dire on n'est pas en train de te regarder dans les yeux, on est en train de te regarder dans le décolleté.
Mais tu te rappelles ou pas cette anecdote ? On a marché genre une heure dans Paris et j'avais un body dos nu, donc j'avais pas de soutif. C'était il y a 2 ans, je crois, donc c'était il y a pas si longtemps que ça. Et on a marché une bonne heure et en fait, on était face à une piste cyclable et tous les gens de la piste cyclable me regardaient. Moi, j'avais même pas remarqué.
Non, mais pas c'est pendant l'heure totale.
Oui.
Tout le monde te regardait dans les seins.
Oui. Mais, moi, je ne regardais plus les gens dans les yeux. Je ne voulais plus voir. Moi, j'ai arrêté. Je me suis dit, pourquoi tu te fais souffrir ? Arrête de regarder les gens dans les yeux. Ça ne sert à rien. Tu vas juste te faire du mal.
Et aussi bien les femmes que les hommes.
Oui.
Et peu importe les âges.
Oui. Et donc, tu as remarqué ça et tu as pété un câble. Enfin, ça t'a un peu fait vriller, genre. Et c'est à ce moment-là, je crois que tu as capté vraiment à quel point c'était omniprésent tout le temps.
Mais tu sais... Ce jour-là, je me suis... Mais d'ailleurs, on n'en a jamais reparlé, c'est marrant. Mais ce jour-là, je me suis demandé, parce que je crois qu'à l'époque, t'étais un peu en mode nos bras et tout, après le confinement, quoi. Donc, tu portais pas de soutien-gorge, etc. Et je crois que c'est moi qui t'ai parlé de ça, je crois vraiment au bout d'une demi-heure, quoi.
Si, je m'en rappelle.
Et je me suis dit... Après, t'as commencé à remettre des soutifs, t'as commencé à mettre des trucs plus larges et tout. Et je me suis demandé à quel point c'était ma remarque... qui est une remarque... En plus, en fait, c'était même pas une remarque, c'était juste, je t'ai demandé si t'étais à l'aise avec le fait que les gens te regardent sans arrêt dans les seins et tout, tu vois, est-ce que ça te faisait ? Et tu m'as dit, non, mais c'est bon, je m'en fous un peu et tout. J'étais là, waouh, ok, trop forte. Et suite à ça, t'as un peu arrêté, t'as commencé à mettre des pulls très larges que t'as comme aujourd'hui et tout. Et tu vois, j'en ai reparlé l'autre jour à une amie et je me disais, mais à quel point... C'est moi qui t'ai foutu cette graine-là, sans le savoir, bien sûr, qui t'a fait changer de comportement.
Je crois pas. Je crois juste que mes seins commençaient vraiment à devenir hyper volumineux et que physiquement, c'était compliqué de plus mettre de soutif. Il y a eu aussi cet aspect-là qui a joué, c'est sûr. Et après, il y a l'aspect confortable qui est arrivé chez moi après le confinement, où j'avais plus envie de mettre des trucs dans lesquels j'étais pas à l'aise et confortable. Parce qu'en fait, je venais de passer 4 mois chez moi à mettre les trucs les plus larges que j'ai jamais mis ou à ne pas m'habiller. À rester en peignoir toute la journée, quoi. Ou en maillot de bord dans mon jardin. Et donc, je voulais être confort après. Donc, ça a peut-être un peu joué, mais je crois que ça m'a fait un peu un choc quand on est sorti du confinement et que j'ai vu à quel point les gens me regardaient dans les seins plus qu'avant, je pense.
C'était pas le cas avant ?
Bah, j'ai pas l'impression. Et surtout... J'ai commencé pendant le confinement à m'habiller un peu plus serré. Et donc, le regard des gens a un peu changé. Bah, je sais pas, c'était une période où j'étais pas très bien dans mon corps, je pense. Donc, je préférais avoir un truc qui galbe mes seins et qui les mette sous leur meilleure forme, entre guillemets.
Okay.
Et en même temps, je détestais ça. Hein, mais Donc voilà, mes seins et moi, ça a toujours été... Bah, ça a toujours été un peu le seul truc de mon corps que j'ai pas aimé. Vraiment, je savais que j'aimais pas, quoi.
Parce que là, ces dernières années, t'as un peu pris des fesses.
Ouais, t'as là, pris j'ai pris des hanches, j'ai fait du sport, ça allait un peu mieux. Donc, c'est un peu moins choquant aujourd'hui.
Non, ce que je voulais dire, c'est que t'es à l'aise avec ça ?
D'avoir pris des hanches ?
Ouais, des hanches, des seins, des fesses. Enfin, pas des seins pour le coup, mais si, des hanches et des fesses.
J'ai pris des seins encore la dernière
oui,
année. Là,
t'as, mais... t'as pris beaucoup de seins, mais je parlais plutôt.
Tu restes du corps ?
Ouais.
Non, je m'en fous.
Okay.
Enfin, je crois que ça fait partie du jeu de la vie, quoi.
Non, mais.
Je peux plus. Enfin, au début, j'ai eu un peu de mal. Je m'en rappelle, parce que j'étais un peu là, genre, je rentre plus dans mes pantalons. Parce que vraiment, je me suis mise à la muscu, et au bout de 3 mois, j'avais pris genre 15 cm de tour de cul, je crois. Enfin, vraiment, j'avais pris du cul de ouf.
T'as bien bossé.
Oui, j'ai d'ailleurs arrêté, mais c'est pas grave.
C'était pas en rapport avec ça.
Non, c'était pas en rapport avec ça. Non, j'avais envie d'avoir un gros cul, et il était cool. Et j'étais fière d'avoir gagné ce cul en travaillant. Mais ça m'énervait de plus rentrer dans mes pantalons, mais ça, c'est juste. Un truc, tu vois, j'avais trouvé des pantalons cool, ça me saoulait depuis rentrer dedans.
Donc ouais, t'es à l'aise avec le fait que ton corps ait changé.
Bah ouais, je pense qu'on m'avait un peu prévenu aussi. Genre maman, elle m'avait un peu dit, ouais, tu verras, après tu vas prendre des hanches et tout. Et puis j'avais vraiment taffé pour prendre autant de hanches. Genre vraiment, c'était la salle, tu vois, qui, je pense, a accéléré.
Bah les hanches, c'est pas ta salle. C'est pas la salle, c'est plutôt ton corps qui a changé, mais les fesses, oui, tu les as musclées, donc voilà. Elles ont pris un peu plus de place. Mais oui. Les hanches, tu muscles pas tes hanches en
si,
allant à la salle.
C'est le côté.
Oui, d'accord.
Mais non, je pense que juste ça a accéléré
la largeur
le process.
De ton bassin, c'est la largeur de ton bassin, tu vois.
Oui, mais je pense que la salle a accéléré le process. Et vu que je prenais des fesses en même temps, ça me dérangeait pas, tu vois.
Okay.
Il y avait un truc où c'était logique.
Mais alors, donc les seins plus complexes.
Les seins plus complexes, et depuis toujours, tu vois, parce que c'est. Bah, j'ai pas trop de fesses, enfin mes fesses elles sont pas choquantes, je trouve. Et le truc c'est que mes seins, j'ai toujours trouvé qu'ils étaient hétérogènes avec mon corps. Genre que ça n'allait pas. Parce que c'était trop gros, c'était pas. Pour moi, c'était pas logique. Il y avait pas de logique dans mes seins.
Ouais.
Vis-à-vis de mon corps, tu vois.
Ok. D'où est venue l'idée de faire une réduction mammaire ?
J'en ai aucune idée.
Ah ouais, tu te souviens plus ?
Non, bah je crois que j'en ai toujours un peu parlé, tu vois. Bah j'ai l'impression en tout cas. D'avoir toujours été un peu en mode, bah, le jour où je pourrais vraiment, regardez-moi bien, enlever mes seins.
Ah ouais ?
Bah ouais, du plus loin que je me souvienne, ça m'a toujours saoulée, quoi. J'ai toujours eu envie de plus d'en avoir moins.
De pas plus en avoir, d'en avoir moins ?
Bah plus en avoir, n'hésitez pas, un jour, mais ça ne sera pas possible, mais...
Hein ?
Bah de... Enfin, que ça soit... Oui, moins.
Bah t'as voulu garder un bon essai, t'aurais pu juste dire, moi je...
Non, il veut pas le chirurgien. Parce que sinon, il faut quand même qu'il reste un peu, parce que sinon, c'est pas logique. Et ça serait trop gros changement.
Ok.
Ça pourrait être trop compliqué mentalement, je crois.
Oui, d'enlever totalement la poitrine.
Oui, voilà. Ou plus que ce que moi, il m'a enlevé.
C'est ce que tu aurais voulu faire ?
Je sais pas. Je me suis pas posé la question, okay. Vu qu'il a dit que c'est pas possible.
Ok.
Mais je crois pas que ça m'aurait. Enfin, non, je suis contente avec la poitrine que j'ai aujourd'hui.
Ok.
Après réduction. Et du coup, il y a un an et demi, je crois, j'ai commencé à me renseigner, à voir des gens sur les réseaux sociaux qui le faisaient, parce que je crois que c'est ça aussi qui m'a mis l'idée que ça existe et que je peux le faire. Et j'ai épluché tout le YouTube des meufs qui font des « j'ai fait une réduction mammaire !» Et c'était fabuleux, j'avais qu'une envie, c'était de faire ça. Et donc je t'ai demandé de l'aide pour trouver un chirurgien, qui est d'ailleurs fabuleux. Et que tu as trouvé, je l'ai vu en février dernier.
J'ai pas trouvé le chirurgien, c'est juste j'ai posté une story en disant est-ce que vous connaissez des chirurgiens sur l'île qui sont chouettes et qui font des réductions mammaires. Et en fait, il s'avère qu'il y a une influenceuse dont j'appelle le pseudo,
moi aussi.
Pardon, qui avait fait la promo de ce mec. Et donc quelqu'un de ma commu m'a dit tu devrais aller voir tel docteur ou telle nana qui a fait une... Voilà, bon, bref.
Et donc, t'as réussi à trouver quand même un nom fiable, tu vois.
Bah oui.
Bah oui, mais tu dis bah oui, mais tout le monde n'a
merci,
pas...
Merci Internet.
Voilà, tout le monde n'a pas ses skills.
Bah faut... Pour moi, je crois que c'est hyper important de se faire recommander.
Oui, bah totalement. Je dis pas le contraire, mais c'est juste tout le monde n'a pas des gens à qui demander, quoi.
Tout à fait.
Voilà.
Merci donc, Internet.
Merci, merci toi. Merci ton travail.
Non mais t'aurais pu aller chercher sur n'importe quel forum, t'aurais trouvé quoi, tu vois.
Bah ouais, mais en même temps, je sais pas, je préférais que ce soit un truc. Ça me rassurait que ce soit toi qui le trouve.
Ok.
Parce que je me disais que t'aurais peut-être plus la puce à l'oreille que moi si c'était genre une daube ou quoi.
Ok.
Du coup, j'ai pris un rendez-vous avec ce mec. On a fait un premier rendez-vous. J'avais 15 ans à ce moment-là. Ou 16, je ne sais plus. Mais en tout cas, il m'a dit que c'était beaucoup trop tôt. Il fallait au moins attendre 17 ans et demi pour que la poitrine ait fini de grossir. Et du coup, je lui ai posé rapidement mes questions, mais c'était encore qu'un projet hyper lointain pour moi. Il m'a expliqué comment ça marchait. Il a regardé mes seins. Il a dit, il n'y a pas de souci, parce que c'est remboursé à partir de 350 grammes en moins par sein. En partie, c'est remboursé par la Sécu, je crois. Je ne sais pas de combien exactement, ça dépend, à mon avis, des opérations et du chirurgien. Mais lui, il a dit, il n'y aura pas de souci.
Okay, effectivement, c'est... vu le résultat.
Effectivement, vu la taille, ça n'a pas au zéro problème. On s'est mis d'accord sur la taille que j'aimerais bien avoir, etc. Il m'a montré des photos de ses opérations précédentes avec les cicatrices. Il m'a parlé de tous les risques aussi qui existent. Notamment, l'un des plus gros, c'est que je pourrais peut-être pas allaiter si j'ai des enfants. Parce que c'est pas sûr que les canaux se soient bien remis, etc. Ça me dérange pas, parce que pas prévu d'avoir des enfants pour l'instant. Et si j'en ai, bah, je vivrai sans les allaiter, ça ira. Et voilà, il m'a prévenu les cicatrices, les risques, tout ce qui est relatif à une opération, comment ça se passe, c'est quoi le déroulement. Et donc, il m'a laissé un peu plus de 6 mois pour réfléchir, plutôt 10 mois. Et je l'ai revu en décembre, une fois que ça commençait à devenir vraiment concret, parce qu'il m'a dit, à la rentrée de septembre, vous appelez mon truc, pour avoir mon cabinet, pour avoir un rendez-vous quelques mois après et pouvoir commencer à planifier l'opération. Donc, on a eu la date du 29 février, genre courant octobre, je crois. Et on a eu un dernier rendez-vous fin décembre pour que je puisse poser mes dernières questions, parce qu'en fait, entre-temps, il y en a plein qui sont arrivés, mais plus sur de la logistique. Il a envoyé toutes les ordonnances.
Attends, il y a quand même un moment où tu sors de chez le chirurgien quand il te l'a validé.
Et je m'effondre en larmes.
Ouais, c'est ça. C'était le premier
rendez-vous. Rendez-vous. C'était le 1er février. Oui,
t'as dit que c'était OK.
Ouais. Il m'a dit que c'était possible, quoi. Parce que moi, j'étais même pas sûre que ça pouvait être possible. Mon âge, mais aussi ma poitrine, je sais pas, peut-être il y avait des trucs qui faisaient que c'était pas possible. Entre-temps, j'ai quand même dû faire une échographie et une mammographie. Un truc de dingue que j'avais jamais fait. Ils m'ont fait une mammo, mais mes seins étaient tellement gros qu'ils voyaient rien. Donc, ils ont dû faire une écho. Mais tout s'est très bien passé. Enfin, il n'y a rien, quoi.
Pourquoi tu t'es effondrée en larmes comme ça?
Parce que j'étais trop heureuse. J'étais tellement heureuse que ça puisse être possible. Et que je sois allée chercher ces infos et tout, que ce chirurgien soit si cool. Il est hyper calme, posé, clair. Il passe pas par 4 chemins, tu vois. Et en fait, j'ai bien aimé cet humain. Puis il est hyper rassurant. Et ça reste un médecin très pratique, entre guillemets. Pas très dans l'émotionnel et tout. Mais il était parfait pour moi, je pense.
Ouais, ouais.
En termes d'humanité.
Ouais, et puis gentil et tout.
Ouais, c'est ça. Et il n'avait pas de soucis avec mes questions, aussi folles soient-elles, qui pouvaient me passer par la tête.
Je vous mettrai le nom dans les notes, si jamais ça vous intéresse.
Bah, c'est le docteur Capon,
bah oui.
À la clinique Clémenceau.
Voilà.
Je connais bien, parce que j'y suis allée une paire de fois. Mais,
à Lille, donc.
À Lille, à Marc-en-Barœul même.
Oui, c'est à côté.
Et donc, il a vraiment géré.
Cet épisode n'est pas sponsorisé.
Non, bien sûr que non.
Même si un jour, j'adorerais devenir influenceur vasectomie. Mais...
Mais c'est pas très vasectomie, là, du coup.
Tu pourrais devenir influenceuse réduction mammaire.
Ouais, je pourrais. J'en rêve un peu, mais bon. Parce que j'ai envie que tout le monde voit mes seins.
On va en parler.
Et donc, j'étais trop contente en sortant de ce premier rendez-vous. Et entre-temps, il y a eu l'été qui est passé. J'ai songé, j'ai réfléchi. J'ai encore bouffé tout le YouTube à nouveau une deuxième fois. J'ai trouvé des petits tips, notamment mettre une chemise et tout, pour que ça soit plus simple pour sa vie après. J'en ai parlé autour de moi, mon entourage, parce que c'est important pour moi d'avoir l'opinion des gens qui m'entourent, même si je le prends ou je le prends pas. Mes potes étaient à fond derrière moi, ils me soutenaient de ouf. Il y a quelques personnes qui m'ont dit « Est-ce que t'es sûre que c'est pas tes seins qui font que t'es toi ?» J'étais là, genre... Vraiment, vous... Non.
Tu comprends pourquoi ils disent ça?
Bah ouais, parce que pour eux, c'était un trait de moi. Mais en fait, pas. Je suis toujours Lina avec ou sans sein.
Mais c'est comme les gens qui s'identifient à leur clope.
Bah ouais, mais je trouve ça...
Tu connais?
Oui, je connais.
Si vous ne l'avez pas, on a
Bah d'ailleurs,
on
c'est
a une saga.
Non, mais c'est important d'en parler parce que j'aurais pas pu me faire opérer si je fumais.
Je termine ma petite promo, mais on a fait une saga cet été. On a longuement parlé, Lina et moi, de la clope. Voilà. Oui,
oui. Et c'était nécessaire que j'arrête de fumer avant de me faire opérer.
Voilà.
Au moins un mois avant et jusqu'à un mois après. Donc au final, j'ai arrêté il y a 7 mois maintenant et j'ai toujours pas fumé depuis. Donc,
good.
Slay that job. Shit. Et donc l'été est passé, j'en ai parlé à pas mal de gens. On m'a conseillé d'avoir un deuxième avis, mais j'ai pas jugé que c'était nécessaire. Mmh. Parce que vraiment, mon chirurgien, je l'ai adoré tellement fort que j'estimais pas en avoir besoin. Après coup, j'aurais pu le faire, mais je vois pas trop à quoi ça m'aurait servi. Parce que j'avais déjà quasiment toutes les réponses à mes questions et je le revoyais une fois, juste avant l'opération, donc il n'y avait pas de souci. Donc l'année passe, je suis contente. Chaque moment qui avance, je suis plus contente. Mmh. Enfin, je suis plus contente. On arrive fin décembre, on a le petit rendez-vous, tout se passe très bien. Je lui pose toutes mes questions, aussi folles soient-elles les unes que les autres. Il m'explique tout, comment ça se passe, les douches, les machins, les trucs, l'organisation, plus logistique qu'autre chose.
C'est quoi les questions folles ?
Les questions folles...
C'est bizarre comme expression.
Je sais pas, j'avais demandé genre... Attends, j'avais une liste. Parce que j'avais fait une liste, j'avais peur d'oublier des trucs. Mais je sais pas, il y a des questions qui l'avaient fait rire. Un peu en mode, c'est inhabituel. Et maman aussi, ça l'avait fait rire parce qu'elle était venue avec moi. Alors, je l'avais demandé si je devais me raser les jambes et les bras ou pas. Parce qu'il y a écrit que tu dois te raser normalement entièrement, mais c'est pour toutes les opérations. Et lui, il m'a dit, tu dois te raser que les aisselles. Après, j'avais dit comment ça se passe, les douches, la nuit à l'hôpital. Est-ce qu'il faut que je mette les bas de contention avant d'arriver à l'hôpital ? Ce genre de questions un peu tellement précises que lui, il était là... Bah, je sais pas, on s'en fout, genre. Moi, c'était une question qui m'était passée par la tête. Voilà. C'est le genre de questions un peu pointues que mon cerveau avait et qu'il fallait que je me pose. Ouais. Donc, je l'ai posé. Il a ri un peu, mais il m'a dit bah, tu fais comme tu veux. Tant que tu les as pour l'opération, on s'en fout. Oui. Voilà. Et donc, tout s'est très bien passé. On a eu rendez-vous chez l'anesthésiste un mois après. J'ai dû faire 2 prises de sang pour connaître mon groupe sanguin parce que je le connaissais pas avant. Vu que c'est une opération quand même plutôt conséquente, il faut qu'il l'ait. Maman et moi, on s'est occupé de tous les papiers et tout ensemble. J'ai pas mal géré cette opération aussi de mon côté, en tant que futur adulte, en tant que jeune adulte.
Là aussi, vous avez un petit épisode où on parle de ça, oui, tous les deux.
Évidemment.
De ta future vie d'adulte.
Et donc, j'ai pas mal géré tout ça. Notamment les rendez-vous et tout. Maman m'aidait, mais j'ai quand même... pas mal géré. Donc je suis contente d'avoir eu ma part à faire là-dedans.
Ok.
Donc on a ri une semaine avant.
On a ri ?
On arrive.
Ah.
Une semaine avant. Je passe 5 jours à la maison avant, seule, avant l'opération. Ce qui m'était jamais arrivé. Voilà, de passer autant de temps seule, et même de passer du temps seule, parce que...
Pour expliquer, c'est que, en fait, ta mère est partie en vacances avec ta sœur.
Voilà.
Et en gros, on était censé passer cette semaine-là, tous les deux.
À Paris.
À Paris. Mais tu m'as demandé si tu pouvais pas être seule, et à Lille, toute seule, pour la première fois dans la maison pendant... Je sais pas, 5 jours. C'était bien.
C'était fabuleux.
Ça t'a aidé à...
Bah, je crois que c'est un truc dont j'avais besoin pour me reposer pleinement et me rendre compte de tout ce qui allait se passer. Et en même temps, 48 heures avant, j'ai freak out comme une dingue.
Freak out ?
Péter un câble. J'étais en mental breakdown un petit peu.
Pourquoi ?
Parce que c'est hyper stressant. Parce que c'est pas une opération de vie ou de mort. C'est une opération que de choix, qui relève que du courage. Parce que c'est pour ma santé, certes. C'est pour mon mal de dos, etc., mon positionnement et tout. Mais en fait, je ne vais pas mourir si je ne le fais pas, quoi. C'est que pour moi. Et moi, uniquement. Donc, c'est quand même pas mal de responsabilités. Hein. Et donc, ça m'a entraîné pas mal d'angoisse et d'émotions extrêmement fortes que j'ai eu du mal à gérer. Notamment, je me suis fait opérer le jeudi. Et le mardi, je t'ai appelé totalement en larmes. J'étais là, genre... Je sais pas... C'est trop là. Oui. Et donc t'étais à deux doigts de venir et j'ai dit non, je veux pas que tu viennes parce qu'en fait ça va aller. Mais juste j'avais besoin de pleurer mes grands-morts pendant une heure à chaudes larmes, vraiment très très fort.
Avec des trucs du genre, je vais plus pouvoir faire de vélo. Voilà. Ouais, bah oui, c'est sûr que c'est triste, mais ça va revenir, t'inquiète.
Voilà. J'avais un peu peur de l'après. En fait, j'ai pas eu peur de l'opération, genre jamais l'opération même, tu vois. Mais j'ai eu peur de la cicatrisation, de ce que je pourrais plus faire, d'à quel point je serais handicapée de la vie, comment j'allais m'organiser pour tout ça, tu vois. Et donc, on arrive la veille de l'opération, je fais mes douches, je change mes draps pour dormir dans des draps propres, je mets la bétadine, le machin, le truc, je me lave les cheveux, tout, je fais tout, la totale, je suis hyper clean. Ça faisait déjà 3 jours que je réfléchissais à comment faire mes machines pour que j'ai des draps propres au bon moment, des vêtements propres au bon moment. Enfin, c'était vraiment un délire. Et donc, bien, ouais. J'ai très bien géré tout ça.
Gestion de vie d'adulte, quoi.
Bah oui, oui, totalement. Pendant ces 5 jours, je ne suis pas morte. J'ai nourri mon chat, j'ai dormi correctement, j'ai mangé correctement, je me suis douchée correctement. Bon, douchée, ça reste à voir, mais je me suis douchée plusieurs fois. Correctement, je ne sais pas, mais je l'ai fait quand même. Je suis allée au truc où je devais aller, j'ai fait des babysitting, je suis allée au soutien scolaire où je devais aller. Enfin, j'ai réussi à vivre correctement, donc c'était cool. Malgré ce petit mental breakdown, mais c'était juste un mental breakdown quand même, pour en avoir un peu n'importe quand. Donc j'étais très contente, très fière de moi déjà. Et puis le matin de l'opération arrive, petit réveil 5h30 en bombe pour se doucher 2 fois encore à la bétadine avant de partir et mettre des vêtements propres.
Tu devais être à l'hosto à 7h.
Je devais être à l'hosto à 7h, on a pris un petit Uber des familles, c'était incroyable, c'était une Tesla, c'était fou. Moi j'étais trop contente, j'étais là genre ouais, il y a un écran et on voit les gens autour et tout et les feux, c'est trop rigolo. Donc le trajet s'est très bien passé. Moi j'étais hyper contente, j'avais qu'une hâte, c'est que ça soit fini, parce que vraiment j'en pouvais plus quoi. Et l'attente commençait à devenir longue. Au final je suis arrivée à l'hôpital, tout s'est bien passé, le chirurgien est passé, il m'a fait les traits, j'ai été la première à aller au bloc, tout le monde était adorable. Je me suis fait opérer à Lille. Voilà. Le chirurgien, c'est un chirurgien privé. Je ne sais pas si je l'ai dit avant. Mais non. Du coup, il n'est pas... Non. Je ne sais pas comment expliquer, mais c'est un chirurgien privé. Et j'ai totalement oublié où j'en étais. Ah oui, donc on est descendu au bloc, tout s'est bien passé. Les gens étaient super sympas. Il y avait mon anesthésiste. Tout le monde était cool. J'étais à jeun depuis minuit, donc j'avais envie de crever de... Enfin, je crevais de soif et de faim. Surtout de soif. Et donc, je me suis réveillée dans la salle de réveil. C'était super top. C'était hyper drôle. J'ai parlé avec une infirmière super gentille. J'ai déjà pleuré dans la salle de réveil, je crois. J'avais un peu envie de gerber à cause de l'anesthésie. Oui. J'étais en train de vraiment mourir de soif parce que je bois énormément dans la vie de tous les jours. Donc là, j'étais là genre, ça fait vraiment 11 heures que j'ai pas bu. Laissez-moi mourir. J'étais trop contente. J'étais là, j'ai des tout petits sangs et tout. C'était trop cool.
C'est que le début. Hein.
Ouais. Et l'infirmière, elle était trop gentille. Elle était là, mais oui, c'est trop bien. Tu vas avoir une nouvelle vie et tout. Ça va être super. Ouais. Enfin, tout le monde était super sympa. Après, quand j'allais un petit peu mieux et que j'avais plus envie de vomir et me remonter dans ma chambre, il y avait papa quand on est arrivé. Et le brancardier, je l'ai fait mourir de rire parce que quand je suis rentrée dans ma chambre, j'ai dit, papa, j'ai des tout petits sangs. Tu veux les voir?
Est-ce que je peux jouer cette vidéo?
Oui, vas-y.
Parce que je t'ai...
Magnifique vidéo de moi sous drogue.
Je t'ai filmé hein, pour immortaliser ce moment, n'est-ce pas?
Ah mais quelle bonne idée.
Et oui.
C'est une des meilleures vidéos de toute ma vie, je crois.
Waouh.
C'était pas vraiment pile quand je suis rentrée, c'était un peu après, mais...
Non, non, c'était vraiment pile quand t'es rentrée.
Ah ouais?
Ouais.
Non, non, il y a que des pansements. Je peux montrer mes seins. C'est putain, maman. C'est trop bien. Je suis un peu droguée aussi, j'ai super soif. J'ai plus de seins.
Elle veut tout le temps montrer ses seins, les chiens. Mais oui, je sais, ils sont très beaux, ma grande.
Il n'y a plus rien, ils sont trop plus.
Je suis contente pour toi.
Ils sont trop beaux. Voilà. Et j'ai presque pas perdu de sang dans mes draps pour l'instant, donc ça veut dire que c'est bon signe. Ouais. Et ils ont regardé, ils ont dit que les cicatrices étaient bien, moi j'ai
tué. Oui cool.
L'intensité de ma personne est fulgurante.
J'en ai une autre aussi.
Oh, parce que, bah,
tu te souviens
oui,
ou pas?
Oui, mais c'est un peu après ça.
Oui, ça c'était un peu après.
C'était quand je suis un peu redescendue.
Bah, c'était une demi-heure plus tard. Finalement, pas si.
Non, mais redescendue en termes de vouloir montrer les seins.
En termes d'intensité, t'es en train de pleurer et tout. Oh, Pipou.
Ma grande fille. Je suis trop contente. Ça y est, je l'ai fait, papa.
Oh, Pipou.
Je suis allée au bout.
Oh.
Prochaine étape, le bac. On va te refoutre, c'est le truc là.
Sûrement un connard.
C'est trop bizarre. C'était hyper drôle. Mais non, j'étais hyper, hyper émotive et hyper intense. Vraiment.
Oui.
J'ai vraiment fait rire tous les gens que j'ai croisés. Et j'étais tellement contente que en fait ça ressortait par l'intensité de ma personne dans tout ce que je faisais. Donc c'était fou, je crois que c'était un des moments les plus heureux de toute ma vie parce que j'ai jamais été aussi remplie de la tête aux pieds de joie quoi. Et encore j'étais en train de souffrir énormément hein, donc vraiment c'était, enfin c'était pas une opération pas douloureuse. Je sais qu'il y a des gens qui ont pas mal, moi j'ai eu vraiment un peu mal quand même, un peu beaucoup. Mais j'étais trop contente et j'étais trop contente que ce
merci
soit toi
morphine.
Avec moi. Merci la morphine,
merci,
putain.
Merci
la drogue.
Merci la drogue, hein.
Et encore, la drogue suffisait pas vraiment parce que j'avais vraiment mal. Mais et j'étais trop contente que ce soit toi, parce que maman, je pense, aurait été vachement freak out et stressée parce qu'elle déteste l'hôpital et tout ça. Quand j'ai fait mes dents de sagesse, elle tournait de l'œil. C'était des dents de sagesse. Elle avait chaud et tout, on avait dû ouvrir la fenêtre. Donc je crois qu'elle aurait pas résisté à faire 12 malaises pendant ma nuit à l'hôpital, parce que j'ai dû passer une nuit là-bas. Et j'avais pas du tout besoin de ça, donc j'étais extrêmement contente que ce soit toi, parce que c'était très chill. On a ri, c'était super drôle.
C'était cool.
Et voilà, j'étais en train de crever de soif et de faim, mais ça fait partie du jeu, ils pouvaient pas me donner à manger, sinon j'allais gerber, parce que tout mon corps n'était pas réveillé de l'anesthésie. Ce que j'ai compris après, mais je me suis un peu embrouillée avec une infirmière, parce que j'étais « Quand est-ce que vous m'apportez à manger? J'ai trop faim !» Et c'est là, bah, calmez-vous, encore un peu de temps. Mais non, tout s'est bien passé. J'avais des petits drains, c'était hyper sexy, donc je pouvais pas du tout bouger. J'étais vraiment coincée, toute droite, dans mon lit, un peu comme un cadavre, mais j'étais trop contente. Un cadavre heureux. Voilà.
Moi, j'étais trop heureux d'avoir passé ce moment avec toi.
Moi aussi, c'était hyper touchant. Tu sais que j'ai regardé ces vidéos hier soir,
ah ouais,
je sais pas pourquoi, et ça m'a fait pleurer énormément. Parce que je suis encore hyper émue de toutes ces émotions et encore, je les ressens encore énormément. Je crois que je les ressentirai toute ma vie. Peut-être à un moment, j'aurais oublié ce que c'était. Mais vu que je suis encore beaucoup dans la cicatrisation et tout, là, c'est encore ma vie d'avant et encore beaucoup dans mes souvenirs.
Comme on est dans l'histoire de Daron, je voulais dire un truc, c'est que j'en ai parlé avec, dans mon épisode avec Hélène qui m'a coaché sur la parentalité, sur trouver ma place de père. Et je vous mettrai un lien si vous voulez aller écouter cet épisode. Et j'étais très heureux de pouvoir être là avec toi parce que c'est vraiment le truc qui me manquait, de pouvoir prendre soin de vous, en fait, d'une manière générale. Et là, vous venez une fois tous les, enfin, un week-end tous les 15 jours. Bon, c'est trop bien, on passe des bons moments et tout, je vous fais à manger, enfin, je prends un peu soin de vous, mais c'est pas, je cherchais un truc plus profond, quoi. Et donc, ça m'a vachement touché que finalement aussi ta mère ait accepté, tu vois, de me laisser la place, tu vois, à ce moment-là, et de pouvoir juste prendre moi ma place tout seul. Je crois que si on avait été tous les deux là, ça aurait été complètement différent, tu vois, c'était pas la même interaction, donc c'était trop cool. Je l'ai remercié d'ailleurs pour ça.
Bah oui, c'est cool, je suis d'accord. Moi aussi, je l'ai un peu remercié d'être parti parce que ça m'a permis de vivre plein de trucs trop cool avec toi et toute seule aussi. Et du coup, voilà. Mais non, tout s'est bien passé. Les infirmiers passaient tous les 3 heures pour vérifier mes pansements. Tout allait bien.
On est rentré à la maison le lendemain midi.
Ouais. Papa, il a eu un petit lit dans l'hôpital, dans la chambre et tout. C'était cool.
Incroyable vie.
J'ai quand même réussi à plutôt pas mal dormir, donc j'étais contente. Parce que j'étais vraiment KO. L'après-midi était très très compliqué. Physiquement, moi j'avais vachement mal. Et je m'ennuyais un peu beaucoup. Et j'avais vraiment très très faim. Une fois que j'avais mangé, ça allait un peu mieux. Après, j'ai fait pipi. Waouh. Je me suis levée et tout, et ça allait un peu mieux. Donc, j'ai eu de l'aide des infirmières qui était très cool. Donc, on est rentré le lendemain. Donc, le vendredi matin, midi. On est reparti en voiture. C'était un peu... J'étais un peu là, genre... J'ai zéro envie de bouger parce que j'ai extrêmement peur. J'avais des pansements horribles parce qu'ils grattaient. Les pansements de l'hôpital, c'était une horreur. Et j'avais une brassière, mais au moment où je suis sortie de l'opération, mes seins étaient hyper gonflés. Donc, ça passait tout pile, mais c'était hyper serré. Donc, avec papa, le lendemain...
Faut expliquer que t'es obligée de mettre une brassière pendant...
Ah oui. Pendant un mois.
Un mois.
Un mois nuit et jour, et après deux semaines encore que la nuit. Donc là, je suis encore dans le mois où j'ai les brassières nuit et jour. Ça se passe très bien. Mais sur le moment, mes seins étaient encore hyper gonflés. Donc, toutes les brassières que j'avais ne passaient pas. Ou ça passait, mais c'était genre hyper inconfortable. Surtout que, vu que mes seins étaient gonflés, la brassière remontait et ça touchait mes cicatrices. Parce que j'ai une cicatrice en forme d'encre. Donc, j'ai en dessous du sein qui remonte jusqu'au téton et autour du téton. Ce qui est normal et c'est une cicatrice commune. Enfin, je veux dire, c'est pas juste mon chirurgien qui se tape un délire. C'est comme ça pour tout le monde. En tout cas, c'est une des cicatrices qui existent. Et du coup, ma brassière touchait la cicatrice du dessous. Donc, la première nuit était horrible. Vraiment, j'étais crevée, j'en pouvais plus. J'ai pleuré énormément. Mais t'étais là et t'es venue dormir à côté dans la chambre de ma sœur, qui n'était pas là du coup, qui était aussi en vacances. Et t'es venue dormir dans la chambre à côté pour entendre si ça n'allait pas. Je devais aussi dormir quasiment assise, parce que je pouvais pas me baisser, ça me faisait trop mal. Donc plein de trucs un peu compliqués, j'étais pas vraiment capable de porter plus qu'une bouteille d'eau de 50 centilitres.
Ouais, c'est normal.
Bah oui, c'est normal, mais moi j'étais handicapée de la vie, ça m'a un peu saoulée. Surtout que pendant la semaine et demie, voire les deux semaines qui ont suivi, je regardais les gens ranger ma chambre pour moi, tu vois. Ma mère me lavait le cul, me lavait les cheveux dans le lavabo. Enfin, vraiment, on est sur un... Je devais demander pour qu'on me chope un verre, pour qu'on me serve de l'eau. On me ramenait mon repas dans ma chambre. Enfin, c'était un gros délire.
Enfin, on me ramenait ta mère.
Ma mère et ma sœur me ramenaient dans ma chambre mon repas tous les soirs.
C'est cool, non ? Tu peux leur dire merci ?
Bah, je leur ai dit beaucoup merci.
Oui, oui, oui.
Mais,
mais t'es là,
C'est juste moi, ça me saoulait. J'avais envie de... Oui. Enfin, des fois, le midi, maman, elle rentrait, elle était là. Ah, bah, vous avez pas vidé le lave-vaisselle. Elle parlait pas qu'à moi, elle parlait aussi à ma sœur. Mais moi, j'étais là, genre, bah, si elle le fait pas, moi, j'adorerais le faire. Mais physiquement, là, c'est impossible. Oui. Donc, voilà. C'était un peu compliqué de voir les gens vivre et
on
moi pas.
On peut parler de ce moment, donc le lendemain, donc le samedi.
Ouais, on est allé acheter une brassière. Et donc, je me suis habillée pour la première fois. J'ai mis un t-shirt et tout. Et j'ai décidé, je sais pas trop pourquoi, d'essayer 2-3 t-shirts à moi. Notamment des t-shirts qui m'allaient pas avant. Genre que j'avais acheté en sachant que j'allais me faire opérer.
Ah,
et
okay.
Du coup, j'avais acheté des petits débardeurs genre pour l'été. Et en braderie, donc je les avais essayés en rentrant et ils m'allaient pas. Donc j'étais là, bah, je les garde pour quand j'aurai plus de seins. Et là, je les ai essayés, ça m'allait. Ça m'a automatiquement fait pleurer. Après, j'ai essayé un autre t-shirt que j'avais déjà depuis un bon moment. Que je mettais beaucoup avant, mais qui avant était très court et qui était très voyant, enfin, voyait beaucoup mes seins. Et là, c'était beaucoup plus beau pour moi. Enfin, moi, je trouvais ça beaucoup plus beau et beaucoup plus esthétique avec ma plus petite poitrine. Et ça m'a fait fondre en larmes. Mais vraiment, et j'arrêtais pas de me toucher les seins aussi, parce que je revenais pas trop. Et j'étais tellement fière d'avoir arrêté de fumer et tout, enfin, pour pouvoir faire ça aussi, et d'avoir eu le courage. Oh, mon Dieu, mais quel courage! Et en même temps, ça me paraissait tellement normal. Enfin, c'était tellement un truc... C'était tellement une décision alignée que c'était même pas une question pour moi.
Ouais.
Et c'est drôle parce que toutes les interviews et tout que j'ai regardé des gens qui ont fait une réduction mammaire, c'était que des femmes vers genre 30-40 ans et qui disaient que leur seul regret, c'était de pas l'avoir fait plus tôt. Et moi, je me check toute seule parce que je l'ai fait le plus tôt possible humainement. Et donc, je suis trop contente aussi de démarrer ma vie d'études sup l'année prochaine avec ça, ce corps fabuleux et magnifique que je vénère chaque jour et que je suis heureuse d'habiller. Voilà.
Trop bien.
Donc c'est fabuleux. Je me rendais pas du tout compte de ce que c'était d'avoir des énormes seins avant de faire cette opération.
T'as dit un truc incroyable, tu m'as dit « je vois mon nombril maintenant ».
Ouais, c'est vrai. je crois que personne ne peut comprendre, sauf les gens qui ont des gros seins. Mais en fait, je ne voyais pas du tout mon nombril. Et j'avais aussi des seins qui tombent, parce que en fait, la gravité, bonjour, ça me dérangeait un peu, puisque ça voulait dire qu'ils étaient très gros, donc ils tombaient. Et maintenant, je fais partie de la team seins accrochés.
Ça veut dire quoi?
Ça veut dire quoi? Petite anecdote familiale entre vous et moi. Ma mère avait des seins très volumineux, et c'est les seuls que je voyais quand j'étais petite, jusqu'au jour où j'ai vu ma marraine toute nue, qui, elle, a des très petits seins. Et donc j'ai dit, mais pourquoi t'as des seins accrochés?
Bon, t'avais quel âge?
J'avais
3-4 ans.
Ouais, vraiment, je suis très petite. Et du coup, maintenant, je suis team seins accrochés. Ça montrera. Voilà, donc régulièrement, je pleure en m'habillant et je kiffe tous les jours redécouvrir ma garde-robe et mon corps. Et j'ai trop hâte d'aller faire du shopping pour acheter des maillots de bain et des tout petits débardeurs.
Et des soutifs.
Et des soutifs qu'on a déjà acheté.
On peut en parler?
Oui, on peut en parler, bien sûr.
De cette anecdote incroyable.
Putain, oui, parce que c'est tout un chemin de se redécouvrir un corps qui n'est pas le tien à la base. Et donc, on est allé acheter des soutifs le week-end dernier parce que en transition, j'aurais besoin de soutifs sans armature pour remettre au début, pour éviter de tirer trop sur les cicatrices, etc. Et même pour mon confort à moi et pour avoir le choix, je voulais 2-3 soutifs agréables et confortables. Et donc, on est allé avec papa dans une marque que nous ne citerons pas, mais qui est connue pour tailler petit. Donc, j'ai pris du C, ce qui était ce que je devais avoir. Je devais même avoir un petit C. Et en fait, ça ne m'allait pas. Et en sortant, j'étais là, ça ne m'allait pas, papa. Comment ça se fait? On m'avait dit du C, et en fait, là, le D, ça me va. Qu'est-ce qui se passe? Et donc, papa m'a proposé d'aller dans une autre enseigne qui, elle, taille correctement. Et le C m'allait, et donc j'ai pleuré énormément parce que le C m'allait. Et avant, j'avais pleuré énormément parce que le C ne m'allait pas. Voilà. C'est un peu... C'est vraiment fascinant. C'est un chemin que j'adore. Ça me nourrit tellement. C'est vraiment une redécouverte de mon corps, mais je le vois même juste quand je marche. Maintenant, je regarde les gens dans les yeux. Ça fait quelques... Je crois que l'été dernier, j'avais recommencé un peu à regarder les gens dans les yeux. Mais il y avait toujours un peu un a priori de, en fait, si je le fais, je sais que ça va pas me plaire. Parce que j'ai commencé à avoir un peu plus confiance en moi, je crois, l'été dernier. Et là, là je le vois, il n'y a plus personne qui échappe à mon regard. Là, c'est je fusille du regard. Enfin, je fusille pas, mais personne loupe mon regard, quoi. Je regarde les gens dans les yeux, j'ai plus aucun problème avec ça. Après, on n'est pas encore l'été, donc on verra. Mais normalement, ça sera au moins choquant. Et ça, par contre, ma poitrine choque tous les gens autour de moi et tout le monde est choqué qu'on m'ait enlevé 1,3 kg. Enfin, dès que je mets des vêtements, même mon meilleur pote, j'avais un manteau avant, j'étais toute serrée dedans. Je ressemblais à une paupiette. J'étais toute serrée vraiment. Et là, je le mets maintenant, il est un petit peu large et tout. Et même mon meilleur pote, il était là. Waouh, c'est hyper choquant. Et ça fait trop plaisir. Et moi, ça me fait trop plaisir aussi de voir que mes vêtements me vont mieux. En tout cas, sont plus avec ce que je... Enfin, en plus le... Attends, j'ai pas le mot. Me fit plus comme j'aimerais qu'il me fit.
Ok.
Voilà. Donc c'est trop bien. Je suis hyper heureuse. C'est vraiment... C'est la meilleure décision que j'ai prise de toute ma vie, je crois. Sans... Avec très peu d'hésitation. Tellement de joie.
Merci Nana. Il y a un truc dont tu aurais aimé parler en plus, avant qu'on boucle
N'hésitez pas à vous renseigner, au moins. Même si c'est un truc qui vous dérange, renseignez-vous pour des chirurgiens et allez leur poser vos questions, au minimum. Même si vous hésitez énormément et tout, moi j'ai jamais vraiment hésité parce que j'ai su que c'était toujours un truc que je voulais faire. Mais si vous avez peur, allez vous renseigner. Ça coûte pas grand-chose. Et en fait, ça peut vous ouvrir les portes d'une nouvelle vie incroyable. Est tellement plus simple et tellement plus belle avec un corps qui vous plaît. Ça, croyez-moi que ça change pas mal de choses dans le rapport aux autres, le positionnement de ton corps, de ton dos. La relation que tu entretiens avec toi-même et le monde est extrêmement différente. Donc, renseignez-vous, ça coûte pas forcément toujours grand-chose. Et c'est cool d'avoir au moins des infos.
Et qu'est-ce qui fait que t'as pas, pour tous les darons qui nous écoutent, que t'as pas eu de soucis de m'en parler à moi? Est-ce qu'il y a des trucs que j'ai fait qui ont fait que tu étais à l'aise avec ?
Bah, j'ai jamais été très pudique et on n'a jamais été pudique dans la famille. Et bah, je sais pas, je crois que j'ai jamais considéré ça comme un problème.
Okay.
Parce qu'on est, plusieurs fois allé acheter mes soutifs ensemble et tout, il n'y avait pas de souci, tu vois.
J'ai jamais été trop gêné.
Bah non, c'est ça, tu m'as jamais montré que c'était un problème de t'en parler, donc j'ai jamais estimé que c'était un problème. Et bah ouais, je sais pas. Moi, j'ai jamais eu de problème avec ça non plus, en parler avec toi, quoi. Je sais pas si ma sœur le ferait, genre aller acheter des soutifs et tout avec toi. Mais moi, je sais que j'ai jamais eu de soucis particuliers. Non, je sais pas, juste montrer que c'est pas un truc qui vous gêne, quoi. Mais pas non plus faire des remarques.
C'est-à-dire ?
Bah, je sais pas, moi je sais que j'aimais pas trop quand on me faisait remarquer que j'avais des gros seins, parce que genre craint, je le savais pas. À croire, je le savais pas. Non, je sais pas trop comment dire, mais avec pas de jugement, quoi. Arrête, tu jugeais pas... Surtout si c'est un truc qu'on n'a pas choisi. Et montrez-vous juste ouvert à la discussion. Si t'as besoin, je suis là pour en parler. J'aurais du mal à comprendre, mais je peux t'écouter. Il n'y a pas de souci, quoi. Au moins ça. Je pense que c'est le minimum qui est faisable. Et après, sinon, demandez juste à votre enfant. Lol. Demandez-lui qu'est-ce que je pourrais faire pour que tu sois à l'aise. Parce que moi, je suis prêt à être là pour toi pour ça. Qu'est-ce que tu voudrais que je fasse ? De quoi tu as besoin ? Ce que je peux faire. Voilà. Très simple. Mais je pense que ça ne demande pas beaucoup d'efforts du côté du parent. Mais ça peut débloquer plein de trucs pour l'enfant. L'enfant. Voilà.
Merci Nana.
Merci papa.
À bientôt. Hein,
bisous les podcasts. Bisous les fabulous. C'est ça ?
Je sais pas.
Il n'y a pas de nom.
Jamais trouvé.
Putain.
Ciao.
Vous n'avez pas de nom, miskine.